écoutez, merci à vous tous d'être là et merci à Philippe Baudouin d'être avec nous. Alors, c'est vraiment un grand merci parce que tu es vraiment la personne formidablement indiquée pour le post-diplôme, pour ce post-diplôme à récréation sonore et pour nos rencontres, puisque Philippe Baudouin a une double activité, une double formation qui est vraiment au cœur de nos préoccupations. Alors, d'une part, on va commencer par ce qui t'a véritablement singularisé et ce qui a fait mettre en avant tes travaux et ta recherche. Donc, une formation de philosophe qui va s'investir sur la question du sonore et en travaillant sur une des plus belles et des plus troublantes personnalités du XXe siècle, qui est Walter Benjamin, dont on connaissait évidemment les écrits esthétiques, les relations entre art et politique, et dont Philippe a largement aidé, contribué à faire connaître la philosophie de la radio. Donc avec des recherches qui d'emblée ont été remarquées en 2009, puisque tu as eu le prix de la recherche de l'INA, de l'INATEC. Donc ces travaux sur Benjamin et la radio, hein, bon, vous avez tous traversé les écrits de Benjamin sur l'œuvre d'art, sur la photographie, sur la poésie, sur Paris, mais il y a aussi ses écrits sur la radio et ton parcours intellectuel, ton aventure intellectuelle, t'ont évidemment porté toujours à étudier la radiophonie et cette fois-ci dans une perspective plus récente qui est les relations entre radiophonie et spiritisme. Donc ça, c'est l'aspect scientifique et philosophique de tes recherches. Et parallèlement, alors que spontanément on se dirait voilà un professeur, un universitaire, il s'avère que parallèlement tu es au cœur de la matière sonore. Professionnellement, tu es un aventurier du son tel qu'on les aime, d'autant plus que c'est pour beaucoup d'entre nous une radio de référence. Tu es réalisateur sur France Culture, donc tu as animé, tu as fait des émissions en tant que producteur, mais tu es réalisateur de très nombreuses émissions de France Culture et actuellement tu es donc le chargé de réalisation d'une des émissions phares de la radio, puisque c'est la quotidienne, comme je crois il est dit dans le domaine des médias, c'est l'émission de Caroline Brouet, La Grande Table, tous les jours, de midi à 14h. Voilà. Donc,
Sauf aujourd'hui et demain. Parce que je suis ici.
Voilà, exactement. L'émission n'est pas délocalisée à gauche pendant ces temps. Voilà, donc c'est donc un double merci que nous te donnons autour aussi de cet élément très particulier des amoureux du son, qui est la radiophonie. Voilà, donc merci infiniment d'être venu nous voir à Bourges pour ce
podcast. Ben, merci à toi, Alexandre, et puis aux équipes de l'école et à vous aussi, évidemment, surtout, d'être venu m'écouter aujourd'hui sur ces questions, sur ces rapports entre radiophonie et sciences psychiques qu'on va essayer de débrouiller. Alors, justement, avant de m'aventurer avec vous sur les territoires occultes de la radiophonie, j'aimerais en fait débuter cette conférence sur une question qui me semble centrale, en fait, qui est celle de la voix de la radio. Et pour cela, j'aimerais en fait vous faire entendre l'extrait d'un texte de Théodore Adorno, le philosophe Théodore Adorno, philosophe et sociologue de l'école de Francfort, en fait, l'extrait d'un texte, d'un article, en fait, qu'on trouve dans un ouvrage qui s'intitule « Current of Music ». Ce que je vais vous faire entendre, c'est un texte de 1939, donc un texte postérieur, en fait, au passage de Benjamin sur les ondes allemandes. Et c'est un texte qui est assez fascinant, dont je vous propose d'entendre quelques phrases lues par un comédien avec qui j'ai eu la chance de travailler récemment, qui est Pierre Hatté.
La radio a-t-elle une voix qui lui est propre? Chaque fois que nous allumons la radio, les phénomènes qui s'ensuivent ont une certaine expression. La radio nous parle. Même si nous n'écoutons personne, elle peut faire la grimace, elle peut choquer, elle peut même lever les yeux. L'instrument grâce auquel on entend le programme radiophonique s'appelle un haut-parleur, indiquant par là que la radio parle en son nom propre. Ce n'est bien sûr pas le cas. Elle se contente de transmettre les voix de différentes personnes. Mais en appelant cet instrument haut-parleur, la langue semble indiquer que la radio elle-même, selon toute apparence, semble parler. La cause de cette illusion doit manifestement être cherchée dans le fait que l'auditeur fait face à l'appareil, et non à la personne qui parle. Dès lors, l'outil visible devient le support et l'incarnation d'un son dont l'origine est invisible. En attribuant le son de la radio au poste de radio réel, présent, les gens qui ne se concentrent pas profondément oublient l'irréalité de ce qu'ils écoutent. L'absence de tout individu visible rend la voix de la radio plus objective et plus infaillible encore qu'une voix entendue directement. Et il est possible que les mystères d'une machine qui peut parler se fassent sentir dans notre vue psychique.
Voilà, je pensais qu'il y a finalement que ce passage était ce qu'on pouvait peut-être rêver de mieux d'une certaine manière pour comme entrer en matière en fait, pour essayer de réfléchir ensemble sur la question du phénomène radiophonique. Alors, vous l'avez entendu, en fait, ce texte saisit, j'ai l'impression, en tout cas, toute la complexité de ce que génère, en fait, le médium radiophonique. Mais j'ai l'impression également qu'il condense aussi, en quelques phrases seulement, l'expérience, en fait, que fit Walter Benjamin, l'ami d'Adorno, donc, sur les ondes allemandes, en fait, durant l'entre-deux-guerres. Expérience sur laquelle moi, j'ai eu l'occasion de travailler ces dernières années. Et en fait, si j'ai choisi d'ouvrir cette discussion avec précisément la figure de Walter Benjamin, c'est parce qu'il a réussi à s'emparer des potentialités artistiques et politiques en fait, du médium radiophonique, mais surtout parce qu'il a compris à quel point la radio déployait ce qu'on pourrait qualifier de monde spectral. Un monde spectral fait de voix sans visage, mais aussi d'images mentales. Ce monde invisible, en fait, Walter Benjamin le nomme dans sa pièce radiophonique Le Cœur Froid. Ce monde de la radio, il l'appelle le pays des voix. Et il y a cet extrait que j'aime beaucoup, en fait, qu'on a utilisé d'ailleurs pour la quatrième couverture des écrits radiophoniques dont j'avais dirigé la publication pour Alia il y a quelques mois de ça. Voilà, c'est quelques phrases que je trouve très très belles en fait, qui donnent déjà un petit peu à entendre tout l'imaginaire radiophonique que Benjamin, je trouve, a réussi avec brio à s'emparer. Au pays des voix, donc écrit Benjamin, il existe aussi une forêt noire et aussi des villages et aussi des fleuves et aussi des nuages, exactement comme sur la terre. Sauf que sur la Terre, on ne peut pas les voir, on peut juste les entendre. Et ainsi, on ne voit pas non plus sur la Terre tout ce qui se passe au pays des voix, on l'entend seulement. Vous y serez à peine entré, toutefois, que vous y trouverez vos repères aussi bien qu'ici. Fin de citation. Donc, ce qui m'amène à vous parler, en fait, de la pensée de la radio chez Benjamin, ce qui pose en soi déjà un problème, parce que il faut bien préciser une chose, c'est qu'il n'existe pas à proprement parler de théorie de la radio chez Walter Benjamin. Seulement quelques notes et fragments épars. À vrai dire, l'essentiel de sa réflexion est à chercher plutôt au cœur de ses 90 émissions qu'il a réalisées pour les stations de Berlin et Francfort, en fait, entre 1929 et 1932. Et on pourrait presque dire que Benjamin éprouve la radio avant de tenter de la théoriser. Et c'est certainement son passage dans les studios allemands qui va lui permettre, à partir du début des années 30, de réfléchir à ce qu'il va appeler le déclin de l'aura, que ce soit dans sa petite histoire de la photographie ou bien dans son fameux article sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Alors, je ne vais pas m'appesantir ici, parce que je n'aurai pas le temps de toute manière. Je ne vais pas m'attarder sur les détails, en fait, du parcours radiophonique de Benjamin. Non, je vais juste me contenter de souligner, en fait, deux traits caractéristiques de ce qu'on pourrait qualifier chez lui de pensée fragmentaire de la radio, et qui constitue, me semble-t-il, en soi, un mouvement dialectique. Alors, le premier élément concerne le statut, en fait, du phénomène radiophonique. C'est un statut profondément ambivalent, profondément ambigu, qui crée quelque part quelque chose de troublant, comme disait Alexandre, dans le rapport qu'on peut entretenir avec la voix radiophonique, avec le transistor, avec l'appareil radiophonique. Le propre de la radio, c'est l'invisibilité. De fait, en fait, la radio impose la cécité à son auditeur. C'est une présence invisible qui propose une écoute aveugle. Hein. C'est une expression de Rudolf Arnheim, qui est un des rares théoriciens de la radio. C'est un contemporain d'ailleurs de Benjamin. Radio a été publié en 1936, donc on est à quelques années des textes radiophoniques de Benjamin et puis de ces quelques fragments sur la radio. Et à cette difficulté s'ajoute la question de l'être de l'œuvre radiophonique, c'est-à-dire la question ontologique, pour le dire précisément, parce que s'il y a bien une question à se poser, c'est celle-ci, c'est où se trouve véritablement l'objet radiophonique ? Est-ce dans le scénario, dans le script, dans le manuscrit conservé dans les archives de la station de radio ? Ou plutôt dans la bande magnétique sur laquelle l'objet radiophonique, l'émission, a été enregistrée ? Où se cache-t-il, en fait ? Dans ce qu'on lit ? Ou bien plutôt dans ce qu'on entend ? Je serais tenté de dire dans les deux, à vrai dire. C'est ça qui est troublant et en même temps complexe, peut-être, à saisir, parce que, de par l'immatérialité et l'ubiquité de son être, l'objet radiophonique présente une ontologie qu'on pourrait qualifier de mixte. Et c'est précisément l'ubiquité de cette voix qui se propage par les airs et les ondes, grâce aux techniques donc de reproduction moderne, que l'œuvre radiophonique exclut de fait toute dimension auratique. Et là, on retrouve l'une des grandes notions de Benjamin, l'aura, c'est-à-dire ce qui confère à l'objet son authenticité, son unicité. En somme, l'objet radiophonique n'est plus lié à un ici et maintenant particulier. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Mais en même temps, dans ce mouvement dialectique, on doit apporter une nuance, on doit apporter une réserve. Parce qu'en même temps, qu'est-ce que la voix radiophonique, si ce n'est justement l'apparition d'un lointain, si proche soit-il ? C'est bien ça l'aura également. C'est une des définitions de Benjamin, hein. Une trame singulière d'espace et de temps, l'unique apparition d'un lointain, si proche soit-il. C'est la fameuse citation, la fameuse phrase, la fameuse expression qu'il emploie dans son article sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Donc l'aura, la définition de l'aura, correspond tout à fait à la voix radiophonique. Ce serait plutôt l'inverse d'ailleurs. La voix radiophonique semble correspondre en tout point à la définition que donnera quelques années plus tard Benjamin, la définition de l'aura. Donc la radio, de par le phénomène qu'elle va générer, semble nous mettre en rapport avec une sorte de présence-absence. Paul Valéry parlera de téléprésence ou de présence à distance. Une présence-absence entièrement contenue dans une voix. Une voix d'une nature très particulière, hein. La voix radiophonique, ce n'est pas une voix. Elle a très peu de choses finalement en commun avec la voix, si ce n'est ce qu'elle nous donne à entendre. Pour être précis, on pourrait dire que c'est une voix électrique, électrisée, c'est une voix amplifiée. La radio nous parle, hein, disait Adorno dans le texte que je vous ai fait entendre tout à l'heure. La radio nous parle même si nous n'écoutons personne. Le haut-parleur nous place face à une présence désincarnée, et j'insiste bien sur ce terme, une présence désincarnée rendue possible par l'électricité. Et ce qui me conduit, cela me conduit à avancer l'idée qu'il y aurait chez Benjamin la prise en considération, la prise au sérieux, de la polysémie du terme médium. Je crois en effet qu'il existe chez lui une double lecture de ce mot qu'on a eu un petit peu tendance à écarter ou à oublier, qu'on peut-être, comme on fait tous, à une lecture utilitaire, utilitariste de ces textes esthétiques, on a tendance à oublier un petit peu toute la subtilité qui peut envelopper ce terme de médium chez lui. Mais j'ai l'impression que non seulement chez Benjamin, la radio, de par son expérience, de par l'expérience qu'il en fait, de par la réflexion qu'il essaie de mener autour de cet objet, la radio est un objet médiatique, ça c'est certain, c'est-à-dire un moyen technique de communication et de diffusion d'informations, mais la radio est également une entité médiumnique, au sens prophétique et visionnaire du terme, auquel l'homme de radio qui parle à ses auditeurs pourrait correspondre. Alors, lorsque je vous dis ça, je pense notamment aux causeries radiophoniques pour enfants, que Benjamin consacre notamment à différentes catastrophes qui ont rythmé l'histoire de l'Occident, et sur lesquels il revient régulièrement entre 1929 et 1932. Alors, qu'il s'agisse de la destruction de Pompéi en 79 après Jésus-Christ, du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, ou bien encore de la grande inondation de la Nouvelle-Orléans en 1927, ce que nous dit Benjamin, c'est que l'histoire de l'Occident, de la manière dont il la raconte, en tout cas à ses auditeurs, se conçoit véritablement comme un champ de ruines. Même si, sous la forme de la révolution scientifique, il s'est imposé à notre civilisation moderne avec des inventions technologiques performantes, le déficit en matière de progrès réel de l'humanité est tel, selon Benjamin, que, je le cite à nouveau, le concept de progrès doit être fondé sur la catastrophe. Et c'est précisément l'homme de radio veut lui aussi faire figure de médium. C'est peut-être en transformant la menace de l'avenir en maintenant accompli. Donc, on le voit bien hein, dans ces quelques idées que déploie Benjamin et qu'il destine, en tout cas dans un premier temps, à ces jeunes, aux enfants, aux adolescents de Berlin et de Francfort. C'est l'idée qu'il essaie de propager comme ça à l'occasion de ses émissions. Il y a quelque chose d'assez important qui est la chose suivante, c'est que s'il est un langage prophétique de l'homme de radio, hein, j'exagère peut-être un petit peu, mais je crois qu'il y a quelque chose qui tient à cela chez lui, ce serait moins une divination, moins une interprétation du futur qu'une invitation à percevoir, et ça c'est une expression de Benjamin, à percevoir exactement ce qui arrive à la seconde. Ça c'est une expression qu'il emploie dans l'un de ses textes de Sens unique. Et donc si la place de conteur radiophonique qu'occupe Benjamin lui confère une certaine forme de médiumnité, elle correspond, je crois, à la tâche de traduire le monde et la catastrophe imminente qu'il recèle. Donc la radio établit, c'est une définition qu'on pourrait donner de ce dispositif, la radio établit une passerelle entre différents mondes. Elle nous fait entendre le lointain en le faisant surgir dans l'espace domestique, dans notre salon, dans notre salle de bain, à travers des voix sans corps, des spectres radiophoniques. Et c'est d'ailleurs pas un hasard, en fait, si le dernier projet d'émission de Benjamin, en 1933, projet avorté, bien évidemment à cause de la censure des émissions de radio faites par les nazis, puisque c'est une période très courte de libre expression culturelle qui va voir sa fin arriver avec justement l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc je disais, ce n'est pas un hasard, en fait, si précisément le dernier projet d'émission de Walter Benjamin concernait le spiritisme et les voix d'outre-tombe. Il en parle dans sa correspondance à Gershom Scholem. Il lui dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui lui tient véritablement à cœur et que ça pourrait être l'occasion d'une dernière émission de radio avant de reprendre ses billes. Donc s'il y a bien quelque chose de fascinant, en fait, dans le phénomène radiophonique, j'ai l'impression que c'est le système de croyance qu'il instaure. Voilà, c'est ça qui est une idée que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui. La voix de la radio, pour reprendre l'expression d'Adorno, la voix de la radio me pousse à accepter l'irréalité de la présence de celui qui semble s'adresser à moi. Hein, qui semble s'adresser à moi. Et pour développer cette idée, j'aimerais revenir sur un événement qui me semble déterminant, en fait, dans l'histoire des techniques. On va remonter un petit peu le temps ensemble. On est le 11 mars 1878. On se trouve dans le grand amphithéâtre de l'Académie des sciences, à Paris, bien évidemment. Et si la foule est venue en masse, ce jour-là, c'est parce que les représentants en fait, de la communauté scientifique trépignent de découvrir une curieuse invention, le phonographe de Thomas Edison. Et c'est le physicien Théodose du Moncel qui a été chargé de faire entendre les prouesses de l'appareil. Et on retrouve quelques descriptions assez saisissantes de ce moment-là dans un ouvrage de Camille Flammarion intitulé « L'inconnu et les problèmes psychiques » paru en 1900. Camille Flammarion qui était lui aussi présent lors de cette première démonstration publique en France, qui se souvient de la scène. Voici ce qu'il note. Je le cite. « L'appareil se mit docilement à réciter la phrase enregistrée sur son rouleau. Alors on vit un académicien d'un âge mûr, un certain M. Bouillot, l'esprit pénétré, saturé même des traditions de sa culture classique, se révolter noblement contre l'audace du novateur, se précipiter sur le représentant d'Edison et le saisir à la gorge en s'écriant « Misérable, nous ne serons pas dupes d'un ventriloque. » Fin de citation. Donc ça ne fait aucun doute hein, à cette époque pour l'académicien, pour ce vieil académicien. La voix perçue par l'Assemblée n'est selon lui qu'une pure illusion d'acoustique. Et ce qu'il y a d'encore plus étonnant en fait dans cette affaire, c'est que ce même individu va réitérer ses propos quelques mois plus tard, n'hésitant pas à conclure dans le rapport qu'il présentera à l'Assemblée de savants qu'il s'agissait là d'un habile tour de ventriloquie. Je le cite, « On ne peut admettre, martèle-t-il, qu'un vil métal puisse remplacer le noble appareil de la phonation humaine. » En somme, le phonographe est un sacrilège, véritablement, pour Bouillot, pour cet académicien. Alors, au-delà du caractère cocasse de cette petite histoire, il me semble que cette anecdote autour de l'invention d'Edison révèle un trouble mis au jour par le phonographe. Quel est ce trouble? D'une part, pour la première fois, on peut dire que la voix est entendue sans la présence du locuteur. C'est historique. La technique phonographique a ceci de particulier qu'elle vient disloquer, elle vient disjoindre ce lien spatio-temporel entre le corps et la voix. Hein. On a déjà aperçu ça tout à l'heure avec la question de l'aura de la voix radiophonique. Hein. C'est ça qui se joue également. Le proche et le lointain, on retrouve ces mêmes problématiques dans cette expérience, dans cet événement que j'ai qualifié d'historique. En tout cas, dans l'histoire des techniques, c'est quelque chose de déterminant pour ces raisons-là. Désormais, avec le phonographe, nous sommes en mesure de faire l'expérience d'une voix désincarnée. Et cette expérience est inédite. Raymond Murray Schaeffer la nomme schizophonie dans son ouvrage Le paysage sonore. Il rattache ce phénomène au progrès technologique de nos sociétés modernes. Il explique que du fait de sa reproduction technique, la voix est détachée du corps de celui qui parle, qui s'en trouve alors comme dépossédée. Or, il me semble que l'expérience de l'écoute phonographique préfigure en ce sens, d'une certaine manière, celle que va proposer la télégraphie sans fil à partir de la fin des années 1890, puisqu'avec le dispositif radiophonique, on retrouve ce même phénomène qui avait semé le trouble parmi l'assistance de l'Académie des sciences en 1878, celui de la spectralité. Et je serais tenté de dire que si la radio reste encore aujourd'hui largement impensée par la philosophie, c'est peut-être en raison de l'étrangeté du phénomène qu'elle produit. Et c'est le caractère surnaturel de la voix radiodiffusée que l'on retrouve notamment dans un film méconnu intitulé « The Next Voice You Hear », un film réalisé en 1950, que j'aimerais vous donner à voir, un extrait en tout cas, un film réalisé par un certain William Wellman, où l'on découvre une famille américaine de la classe moyenne persuadée d'entendre la voix de Dieu à la radio.
« But I warn you, Mary, if she calls me Brother Joseph, one more... Hey, how come you're up? It's late. You ought to be in bed.
Well, I thought you'd want to know better.
Oh,
what? Right after you left, at 8:30, it was on the radio again. The voice.
What did it say?
Well, I don't remember word for word, but it was something like, this is God speaking. And a lot of people who don't believe will say if it's really God, why doesn't he perform some miracles?
Miracles?
And the voice said he was going to think about that. Like what kind of miracles, Joe? What would he do?
I don't talk like that, honey. Radio people ought to do something about this. You know, it's just not right.
I'm so sure it's a radio thing.
That might scare people. Talk like that might scare a lot of people.
It did frighten me a little, Joe.
Oh, honey, now come on, none of that. What's it to be scared of? You know it can't be. It can't be God.
Do you know?
What about Johnny? Did he hear too?
Mm-hmm.
I suppose.
Voilà, alors le doute que l'on voit peu à peu envahir hein, le visage du mari dans cette scène, mari pourtant sceptique au départ à l'égard des déclarations de sa femme, eh bien ce doute tient au nouveau mode de présence à l'autre qu'instaure la radio. C'est un problème qu'avait déjà entrevu en 1945, donc quelques années avant ce film-là, un certain René Sudre, historien et théoricien de la radio, également représentant de la métapsychique au début du XXe siècle, donc qui cumulait ces fonctions-là, qui avait un intérêt assez trouble, c'est le cas de le dire, pour ces deux dimensions des voix sans visage. René Sudre disait « La radio confond les philosophes. Comment ne suis-je pas présent pour le causeur du micro alors qu'il est présent pour moi ?» Fin de citation. En fait, si la radio désarme les philosophes, c'est parce qu'elle vient fractionner notre rapport à l'autre. La présence qui s'offre à moi au travers du haut-parleur se manifeste avant tout par une absence physique, hein, je l'ai déjà dit, de celui qui me parle. C'est une présence fuyante, insaisissable, qui ne s'offre qu'en se dérobant. En fin de compte, rien de plus léger et discret qu'un signal radio, rien de plus frappant qu'une voix sans visage qui vient s'immiscer comme ça dans une conscience sans crier gare. Si la radio donc apparaît de prime abord comme une matière étrangère aux philosophes, c'est peut-être au fond parce qu'elle remet en question les principes mêmes de la philosophie classique, à commencer peut-être par celui avancé par Aristote dans le livre second de son traité de l'âme. Aristote dit dans un passage que la voix est un son produit par un être animé. Dans ce cas, si l'on suit Aristote, hein, si seuls les êtres doués d'une âme, donc les êtres animés, si seuls les êtres doués d'une âme possèdent une voix, comment alors appréhender ces objets techniques, le phonographe, le téléphone, la télégraphie sans fil, le magnétophone, le cinématographe, la radio, comment les appréhender, comment les envisager, ces objets, capables de donner à entendre la voix humaine? Il me semble que s'il y a une possibilité de répondre à cette question, d'apporter certains éléments de réponse à cette difficulté-là, c'est peut-être en lisant ou en relisant ensemble un texte, et surtout une expression de Gilles Deleuze, l'expression de machine à fantôme. Dans son livre L'image-mouvement, en fait, Deleuze réfère à un texte de Franz Kafka. C'est une lettre qu'adresse Kafka à Milena, une lettre de 1922, où il envisage l'écriture épistolaire comme un commerce avec les fantômes. C'est son expression. Et il généralise cet élément caractéristique à l'ensemble des machines à communiquer. Donc, il y a comme une sorte de consanguinité, on pourrait dire, entre les télécommunications et le phénomène de la spectralité. Et puis, de manière prolongée, enfin, si on file la métaphore, avec les spectres, avec les fantômes, avec les revenants, la radio, quelque part, c'est une voix du passé, ce peut être une voix du passé, mais c'est une voix immatérielle, invisible, qui revient, ou en tout cas qui se manifeste à nous d'une façon invisible et effectivement immatérielle. Il y a donc dans la lecture qu'en fait Deleuze une distinction importante à avoir à l'esprit. Deleuze nous dit qu'il y a d'une part chez Kafka les moyens de communication-translation qui assurent notre insertion et nos conquêtes dans l'espace et le temps, hein, je le cite, ce sont là nos moyens de locomotion, hein, l'automobile, le bateau, le train, etc. Donc de ce côté-là, effectivement, des moyens de communication-translation, ce que Deleuze appelle les moyens de communication-translation, et d'autre part, les moyens de communication-expression qui, je le cite toujours, suscitent les fantômes sur notre route et nous dévient vers des affects incoordonnés, hors coordonnés. Alors, Kafka, et du coup Deleuze, pensent là au courrier, au téléphone, à la radio, au télégraphe, etc. Tout ce qui vient dématérialiser la parole, l'information, tout ce qui permet de, effectivement, propager, véhiculer dans une immatérialité un message. Alors Jacques Derrida, dont on connaît l'intérêt pour les spectres, va reprendre lui aussi les propos de Kafka afin de caractériser non pas la radio mais le cinéma comme un art de laisser revenir les fantômes, c'est son expression. Et c'est quelque chose, c'est un propos qu'il a tenu dans ses ouvrages mais qu'il a tenu également dans un film où il jouait son propre rôle. C'est un film intitulé Ghost Dance, réalisé en 1983 par Ken MacMillan et dont je vous propose de regarder un extrait.
Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit au fantôme? Ici, le fantôme, c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Paradoxalement, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse, à mon insu, un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. Et c'est ça qui est peut-être le plus amusant. Le cinéma est un art de fantomachie, si vous voulez. Et je crois que le cinéma, quand on ne s'y ennuie pas, c'est ça. C'est un art de laisser revenir le fantôme. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc, si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, précisément parce que je crois parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu. Tout ça, c'est une... Aujourd'hui, ça doit se traiter, me semble-t-il, dans un échange entre l'art du cinéma, dans ce qu'il a de plus inouï, de plus inédit, finalement, et quelque chose de la psychanalyse. Je crois que cinéma plus psychanalyse égale science du fantôme.
Alors, voilà, c'est sur cette dernière formule que, cette dernière expression, en fait, que j'aimerais revenir à, sur laquelle j'aimerais revenir avec vous. La formule choisie par Derrida, donc, pour définir le dispositif cinématographique, hein, lorsqu'il dit radio plus psychanalyse égale science du fantôme, j'ai l'impression que elle peut être également valable pour la radio. Radio plus psychanalyse égale science du fantôme. J'ai l'impression que ça fonctionne également. Et sur ce point, en fait, Derrida rejoint ce que dit précisément Deleuze des télécommunications, et donc de la radio. La radio est une machine à fantômes. Voilà une définition qu'on pourrait donner, à laquelle je crois énormément, sans faire de jeu de mots. C'est un trait, me semble-t-il, dans l'histoire des techniques qu'on a volontairement occulté, alors... On le verra un petit peu plus tard lorsqu'on essaiera d'aborder ensemble. C'est une problématique qui voit le jour de manière parallèle à l'invention de la technique radiophonique. La question précise de la spectralité, des revenants, des fantômes et de la possible communication avec l'au-delà. Mais pour être un petit peu plus précis, pour l'objet qui va nous occuper à présent... je choisirais de prendre cette expression de machine à fantôme au pied de la lettre, en formulant les choses de la manière suivante. Et si l'appareil radiophonique était en mesure de nous faire entendre d'autres mondes? Et si le simple fait de tourner le bouton de son transistor permettait de faire surgir des fantômes dans son salon, ou bien de communiquer avec d'autres planètes? La radio, en tant que dispositif destiné à électriser la parole, est une machine à fantômes. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les inventeurs de la télégraphie sans fil, qui va devenir plus tard la radio, ont pour la plupart d'entre eux, il faut le savoir, pratiqué le spiritisme et mené en parallèle de leurs travaux bien connus des recherches dans le domaine des sciences psychiques. Dès lors, il existerait donc, ce que je disais tout à l'heure, une consanguinité originelle entre ces machines parlantes et les phénomènes qu'on a qualifiés de phénomènes occultes ou de phénomènes psychiques. Alors, l'apparition du médium radiophonique, pour dire les choses clairement, est contemporaine d'un remarquable engouement pour les phénomènes occultes. Qu'il s'agisse de la télépathie, donc de la transmission de pensée entre deux individus sans le recours aux cinq sens connus, de la psychokinèse, donc de la prétendue action de l'esprit sur la matière, ou bien encore des apparitions de fantômes, en fait, l'avènement de la technique radiophonique à la fin des années 1880-1890, dans cette période-là, eh bien, ça coïncide avec l'un des principaux sujets d'étude des chercheurs en sciences psychiques, c'est-à-dire la question d'une présence désincarnée, fragmentée, démultipliée, et qui ne semble plus correspondre aux repères spatio-temporels classiques. Une présence soudain aux prises avec les techniques médiatiques et médiumniques, et là on retrouve cette jonction qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'occulte et le pur rationalisme technique, ce qui est d'assez fascinant, je trouve, dans cette période-là. La radio, hein, de par les effets qu'elle met au jour, donc on l'a vu, l'ubiquité apparente d'une présence, la communication à distance, la voix sans visage, la radio dévoile, semble-t-il, toute la polysémie du terme médium. D'ailleurs, le télégraphe dont le médium radiophonique tire son principe de fonctionnement va occuper une place singulière dans l'histoire de ce qu'on pourrait appeler les machines occultes, puisque la technique télégraphique a joué un rôle significatif dans la naissance du spiritisme populaire. Alors pourquoi je dis ça ? Je vais revenir sur une histoire qui, j'ai l'impression, est assez connue aujourd'hui. Le spiritisme populaire, hein, j'insiste bien là-dessus, né au printemps 1848 dans un petit hameau de Hydesville, dans l'État de New York, la famille Fox subit quotidiennement des phénomènes répétés de coups frappés, de poltergeist, dans les murs de sa maison, ce qu'on appelle les raps, et les trois sœurs Fox, qu'on voit au centre de l'image, vont décider d'entrer en contact avec l'esprit supposé hanter les lieux, et pour cela, elles vont s'inspirer directement de l'alphabet du code Morse établi quelques années auparavant, du code de l'alphabet, donc d'un langage, du langage télégraphique établi par Samuel Morse dans les années 1840. Et elles vont instaurer, comme ça, les bases sommaires d'un moyen de communication, tout simplement en se disant un coup frappé pour oui, deux coups frappés pour non. Et d'ailleurs, on va qualifier un petit peu plus tard ces techniques de typtologique, hein, discours par coup frappé. Et ce qu'il y a d'assez frappant, et qui prête d'ailleurs à sourire, c'est que malgré le fait que des historiens de cette époque vont démontrer très rapidement non seulement que ces phénomènes étaient déjà rapportés depuis l'Antiquité, malgré le fait que les sœurs Fox elles-mêmes vont avouer quelques temps plus tard que leur histoire n'était qu'une vaste fumisterie, eh bien on considère encore aujourd'hui ce récit comme l'acte fondateur du spiritisme. Comme quoi les légendes sont difficiles à dissiper, en tout cas leurs effets. Alors, malgré ça, moi, ce qui m'intéresse ici réside moins dans ces fameux phénomènes de poltergeist et tous leurs aspects sonores qu'on imagine aisément, que dans la technique de communication mise au point par les fillettes. Car c'est justement cette technique rudimentaire, qu'est la typtologie, qui va être prolongée, notamment avec l'arrivée du spiritisme en France, et sa codification par un certain Allan Kardec, que vous voyez sur la droite de l'image, un prolongement qui va se faire par d'autres formes de médiation instrumentale. D'ailleurs, Kardec, qui va déployer toute une doctrine à partir des années 1857, c'est l'année de publication de son Livre des Esprits, donnera une définition des médiums comme, je le cite, « Les médiums sont des machines électriques qui transmettent des dépêches télégraphiques d'un point éloigné à un autre de la Terre. Ainsi, quand nous voulons dicter une communication, nous agissons sur le médium comme l'employé du télégraphe sur son appareil. » Fin de citation. Alors, il y a une histoire des techniques spirites, une histoire des techniques occultes que j'aimerais aborder rapidement avec vous, une histoire de l'instrument spirite, de l'outil spirit qu'on pourrait faire brièvement ensemble. Leurs techniques au spirit sont très diverses. Alors, bien évidemment, il y a les séances collectives qui s'organisent de manière très traditionnelle autour de la figure du médium, souvent une femme d'ailleurs, autour d'une table. Bon. Où justement, une communion, une certaine forme de recueillement va favoriser les phénomènes d'apparition. Mais en tout cas, la communication prétendue avec des entités spirituelles. Il y a des phénomènes qu'on qualifie de voix directe, où le médium, cette fois-ci, va prêter ses cordes vocales aux entités spirituelles, où le médium va permettre de donner corps d'une certaine manière à ces entités-là. Mais il y a aussi d'autres techniques qu'on connaît assez bien, la question de l'écriture automatique, sur laquelle je passe très rapidement, ce qu'on va appeler la psychographie, hein, l'écriture de l'esprit, quelque part, c'est ça. Et ce qui m'intéresse, et ce que je retiendrai seulement à travers ces exemples-là, c'est l'idée d'une mécanisation progressive de la pratique spirit. Une mécanisation qui s'opère aussi donc, par les planches à Ouija, qu'on connaît un petit peu moins en France, qui est vraiment reliée à la culture anglo-saxonne de l'occultisme et du spiritisme, qu'on peut voir ici sur ces dessins et ces photographies, où on va demander à l'esprit d'épeler les lettres et les chiffres sur une planche de bois par le mouvement qu'on va provoquer, qu'il va être censé provoquer dans la main du spirit et du médium, du coup. Et si les planches à esprit et autres Ouija sont aujourd'hui connues de la plupart, notamment par les films de genre, il en va tout autrement, en fait, d'instruments assez étranges, assez bizarres, dont j'aimerais vous parler à présent. Ce sont les trompettes pour esprit. Alors, ces trompettes sont une sorte de porte-voix spirit, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le pavillon du phonographe d'Edison. Vous voyez, on y revient. Edison, qui était également l'inventeur du mégaphone, vous voyez, comme tout est lié. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi tout est lié, parce qu'il y a aussi un intérêt d'Edison pour le spiritisme et pour l'occultisme. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, ces trompettes, dont certaines peuvent être mises en lévitation lors des séances spirites, sont conçues sous la forme de longues cônes d'aluminium, et elles sont utilisées lors des séances pour faciliter l'apparition de phénomènes de voix directe. Comme le rappelle d'ailleurs Arthur Conan Doyle dans son Histoire du spiritisme, paru en 1926, les spirites prétendaient que cette trompette permettait de recevoir et d'amplifier la voix des disparus en utilisant le fluide électrique généré par le médium. Et on le voit bien, les techniques de communication spirit ont d'une certaine manière, c'est mon idée, anticipé la radio, avec notamment la volonté d'inscrire par le recours à l'instrument, les phénomènes de voix désincarnées. Et c'est tout naturellement que la plupart des inventeurs de la radio vont s'intéresser à ce champ d'études en s'engageant dans ce qu'on va appeler, autour de 1910, des années 1910-1920, les sciences psychiques, qui sera plus tard connue sous le nom de parapsychologie, hein, dans les années 30. Et à partir du début des années 1880, on va s'apercevoir que plusieurs sociétés de recherche psychique vont voir le jour, notamment en Angleterre et aux États-Unis, puis à la fin des années 10 en France. Ces sociétés, en fait, vont réunir des savants issus de différentes disciplines, rassemblés dans le but commun d'étudier l'interaction des esprits des morts, comme ceux des vivants, mais aussi de leur interaction avec l'environnement. Et le champ de recherche de ces disciplines va se composer principalement d'objets inexpliqués du point de vue de la science positive. Donc ce qui va intéresser ces gens-là, ces physiciens, ces chimistes, ces philosophes, ça va être directement la question du paranormal, de ce que la science, à cet instant, va être incapable d'expliquer par son discours. Alors, parmi ces gens-là, on trouve de grands noms, Camille Flammarion, Henri Bergson, William James, Conan Doyle, toute cette génération de penseurs qui va s'efforcer de réfléchir aux questions de l'esprit et de possibles matérialisations ou de possibles phénomènes de l'esprit. Alors, qu'en est-il précisément de l'intérêt des inventeurs de la radio pour ce qu'on a appelé les sciences psychiques? Alors, pour aborder cette question historique, à vrai dire, de l'engagement des pères de la TSF en faveur d'une observation scientifique des phénomènes occultes, j'en retiendrai qu'un exemple avec vous, c'est celui d'Oliver Lodge, qui est un des grands noms oubliés aujourd'hui de la radio. Le cas de ce physicien est extrêmement frappant et touchant, me semble-t-il. Alors, sur le plan de la technique radiophonique, c'est quelqu'un à qui l'on doit l'amélioration des transmissions à longue distance entre émetteurs et récepteurs radio. C'est quelqu'un à qui l'on doit ce qu'on appelle encore aujourd'hui la syntonie ou la syntonisation, c'est-à-dire l'accord entre un émetteur et un récepteur. La syntonisation, c'est un geste que vous effectuez encore aujourd'hui, si vous avez encore un poste de radio chez vous. C'est ce geste que vous effectuez lorsque vous tournez le bouton de votre poste de radio pour obtenir la fréquence la plus nette possible pour recevoir une station radio. La syntonisation, c'est cela, c'est ce procédé-là qu'ont permis les recherches d'Oliver Lodge. Alors, Oliver Lodge, non seulement va mener toute une série de recherches sur l'électromagnétisme, va permettre l'amélioration de la télégraphie sans fil, mais parallèlement à cela, il va présider durant plusieurs années la Société de recherche psychique de Londres. Et je le disais, son histoire est poignante, tragique même. Son fils Raymond meurt dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale, et Lodge va faire la rencontre d'une médium qui va lui déclarer être en mesure de communiquer avec son fils disparu. Alors, Lodge, au départ, est extrêmement réticent, mais rapidement, il va se laisser persuader par cette femme et il va participer à des dizaines de séances de spiritisme avec elle, à tel point qu'il va publier un ouvrage qui va être ni plus ni moins que le regroupement des retranscriptions de ces séances de spiritisme. Et il va adhérer à cette idée qu'il y a une possible communication avec l'au-delà dans cet ouvrage donc intitulé « Raymond ou la vie et la mort » qui a d'ailleurs été publié en français, traduit en français sous une forme abrégée en 1916. Et il va, avec une certaine nuance, aller plus loin que ça, c'est-à-dire que selon lui, il y a une dimension métaphysique de l'électricité, de l'électromagnétisme, puisque dans ses conclusions, il va dire que la radio pourrait peut-être un jour permettre d'établir une passerelle entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est-à-dire ce qu'on appelle encore à cette époque l'éther, donc ce qui permet, ce qu'on considère comme la substance qui permet de véhiculer les ondes électromagnétiques et donc la radio, les voies de la radio, cet éther aurait une dimension ou un territoire occulte dont on pourrait s'emparer pour certaines expériences psychiques. Et Lodge va faire une véritable tournée aux États-Unis, non pas en tant que physicien, mais en tant que défenseur infatigable du spiritisme, pour réitérer les mêmes propos qui sont les suivants. Le spiritisme peut être une science et chacun peut en faire l'expérience, et la radio est à même de concrétiser les espoirs du spiritisme. Alors, Lodge va consacrer le reste de sa vie à ces idées-là et à ces observations-là, à la radio précisément, puisque, en accord avec la direction de la BBC, il tente en 1927 une expérience de télépathie radiodiffusée. Alors, malheureusement, aucune archive n'existe aujourd'hui, seuls quelques comptes rendus que j'ai pu retrouver dans les archives de la BBC. En 1925, donc, je disais, il se propose de transmettre, donc, par la seule force de la pensée, différentes images mentales aux auditeurs de la station. Donc, le dispositif est assez simple. Toutes les 5 minutes, un objet différent est placé sous les yeux de Lodge, qui est assis en face du micro du studio, Il va concentrer son attention sur ce qui lui est donné à voir pour tenter de transmettre télépathiquement l'information qui lui est donnée, qui se trouve sous ses yeux. Et on tente à cette époque-là quelque chose qui ne se reproduira plus jamais. On va consacrer entre 5 et 6 heures d'émission radiophonique pour tenter cette expérience de télépathie. Imaginez-vous la chose suivante, c'est-à-dire 5 ou 6 heures de silence radio. C'est littéralement inouï. On s'est d'ailleurs amusé avec une productrice de France Culture à faire ça il n'y a pas très longtemps. Je lui avais suggéré de réitérer cette expérience. On a été obligé, dans les temps de pause qui étaient proposés, alors le dispositif était le même, à la place de Lodge, on avait demandé à un médium de venir en studio, à assister donc d'Aurélie Charron, cette productrice, l'émission de l'atelier intérieur, et puis il y avait un historien de l'art, Pascal Rousseau, qui était présent, et puis il y avait des images, et le médium ne connaissait pas ces images, on lui proposait de visualiser ces images et de se concentrer, et pendant plusieurs minutes, pas plusieurs heures, plusieurs minutes, d'essayer de véhiculer, de transmettre par la force de la pensée ces images aux auditeurs. On a été obligé, pour les besoins d'un point de vue purement technique, d'insérer dans ces moments de pause des bips, tout simplement, pour éviter que la machine et le dispositif de la radio ne fassent enclencher une bande de ce qu'on appelle une bande de secours, qui, sur France Culture, à partir de 3 ou 4 minutes, si mes souvenirs sont bons, se déclenche automatiquement. Voilà, si un silence dure plus que 3 ou 4 minutes. Donc c'était assez intéressant parce qu'on touche presque à l'interdit radiophonique avec cette expérience-là. C'est-à-dire, ce qui habituellement est considéré comme un moment où la machine se grippe, hein, le silence radiophonique, c'est un moment où la machine se grippe, eh bien cet instant-là, cet élément-là, devient, pour cette expérience de télépathie radiodiffusée, la source même de possibilités, de potentialités de transmission de pensée. C'est ça que je trouve assez fascinant et assez troublant. Donc, je disais, dans cette expérience en 1927, les objets vont défiler devant Lodge jusqu'au lendemain matin, où à la fin de la retransmission, les auditeurs qui penseront avoir deviné les objets en question vont être invités à décrire leur vision sur une lettre adressée à la station de radio. Alors, je reprends les informations que j'avais notées sur les comptes rendus de cette expérience. Accrochez-vous bien, la BBC va recevoir 25 320 réponses, dont certaines vont décrire des formes proches des objets de l'expérience. Oliver Lodge résumera sa tentative en ces termes, je le cite, « Je dirais que les résultats de cette expérience ne sont pas sans importance au regard de la psychologie expérimentale. Il ne confirme ni infirme l'hypothèse télépathique. Il laisse ouverte la possibilité que certaines personnes aient pu développer par rapport aux autres une faculté de percipion, fait de percevoir, hein, de se rendre sensible à ces choses-là. Une faculté de percipion que celle-ci ait duré et que de fait, ils aient pu être mis au courant de choses il n'aurait été pas destiné initialement. Donc, on le voit bien, écouter la radio, c'est littéralement se mettre dans une certaine disposition, c'est littéralement entendre des voix. Et là, on retrouve cette dimension psychanalytique qu'on avait entrevue avec Derrida tout à l'heure, lorsque je détournais la formule de Derrida, je disais « radio plus psychanalyse égale science du fantôme », ou fantomachie, c'est un autre terme qu'emploie Derrida. Prenons au pied de la lettre cette expression. Oui, la radio, c'est entendre des voix. La radio, pour reprendre les termes de Florent Lahache, la radio est structurellement hallucinogène. Alors, ça ne veut pas dire que la radio serait délirante. Hein. Ça veut plutôt dire qu'elle nous place, de fait, en position de délirer. Elle nous donne à entendre des voix, elle nous fait croire à l'existence, à la présence de ces voix et au fait que quelqu'un s'adresse à nous. Et dès lors, on comprend toute l'efficacité en fait, qui se cache derrière cette invisibilité du dispositif radiophonique. Tout cela, c'est rappeler l'effet donc, que produit la machine parlante sur l'auditeur. Je le disais tout à l'heure, rien de plus irrespectueux hein, qu'un signal radio. Aucun espace du globe n'en est exempt. Kant, lorsqu'il parlait des sons, non pas de la radio bien évidemment, mais lorsqu'il parlait des sons, les sons musicaux en l'occurrence, il les qualifiait de non-urbains. Moi, j'aime beaucoup cette qualification de non-urbanité pour ce qui est de la radio, parce qu'il y a quelque chose de sauvage, je trouve, dans la propagation du phénomène radiophonique. En tout cas, Kant, pour la question de la musique, disait cela dans sa critique de la faculté de juger, on peut imputer à la musique un certain manque d'urbanité, car ses effets dépassent les limites qu'on voudrait leur assigner et s'étendent jusqu'au voisinage, et elle s'impose en quelque sorte, portant préjudice à ceux qui n'appartiennent pas à la société de musique, ce qui n'est pas le cas des arts qui s'adressent à l'œil, puisqu'on peut toujours détourner son regard. Ceux qui ont recommandé qu'on chante des cantiques à l'occasion des dévotions domestiques n'ont pas réfléchi à la pénible incommodité que ces exercices bruyants font subir au public. Ce que nous dit Kant, là, de la musique, est valable, me semble-t-il, pour la radio, à ceci près que la propagation et l'amplification des voix et des sons dépassent désormais, et c'est là toute la particularité des techniques modernes de reproduction, tout cela dépasse les simples limites d'espace et de temps dans lequel se trouve le locuteur. Les signaux radiophoniques transportent donc des flots de voix, de bruits et de sons qui s'insinuent comme ça et envahissent n'importe quel territoire, aussi reclus soit-il, et de fait, il y a comme une omniprésence latente du phénomène radiophonique. Dans un même espace coexistent d'innombrables signaux latents, comme ici d'ailleurs, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qui sont autant de stations et de sons que mon poste est en mesure de recevoir et de rendre audibles. Nous évoluons ainsi en permanence dans un bain composé d'ondes qui sont autant de messages en puissance. Le poste récepteur est pour celui qui en use cet appareil qui vient actualiser l'émission radiophonique. Les ondes radio se propagent en obéissant à une logique de l'invasion et de la contamination. Cette idée, que je trouve assez forte, et en tout cas assez significative dans la manière dont on peut aborder la radio, a été explorée dans deux films récents, et dont l'action d'ailleurs se déroule pour chacun d'entre eux dans le studio d'une petite radio locale. Je vous propose de regarder tout d'abord un extrait de Lords of Salem, un film réalisé par Rob Zombie en
2013.
Alors, Lords of Salem raconte l'histoire d'une animatrice radio qui reçoit un jour, vous l'avez vu, un mystérieux disque vinyle, un disque maudit, une chanson maudite. Et c'est précisément en diffusant ce disque maudit qu'elle va réveiller sans le vouloir les fantômes des sorcières de Salem. Toutes ces femmes que vous voyez sont la réincarnation des sorcières de Salem. Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'idée que développe ce film, c'est l'effet physique que produit le dispositif radiophonique. La musique radio diffusée agit sur les auditeurs ou sur les auditrices, en l'occurrence. L'écoute de la radio ne se contente pas de les interrompre dans leurs activités, elle les magnétise littéralement. Elle les plonge dans une stupeur soudaine, comme si, quelque part, la machine radiophonique disposait d'un fluide malfaisant qui pouvait paralyser à distance ceux qui l'écoutent. Donc le thème de l'angoisse que provoque l'écoute de la radio a également été exploré par un certain Bruce MacDonald, qui a réalisé le film Pontypool, sorti en 2010, avec cette fois-ci la question précise du langage de la radio.
I should remind our listeners we are talking to...
No, it can't be. It can't be. It's impossible.
What's impossible, Doctor?
It's viral. That much is clear. But a lot of the blood, not blood, not in the air, not on or even in our bodies, it is here. Not all words, not all speaking, but in some. Some words are infected. And it spreads out when the contaminated word is spoken. Oh, we are witnessing the emergence of a new arrangement for life, and our language is its host. It could have sprung spontaneously out of a perception. If it found its way into language, it could leap into reality itself, changing everything. It may be boundless. It may be a gold bug.
Okay, Dr. Mendez, I don't even believe in UFOs, so I got to stop you there with that god bug thing.
Oh, really? Well, you know, that's very sensible, because UFOs don't exist. But I assure you, there is a monster loose, and it's bouncing through our language, frantically trying to keep its host alive.
Is this transmission itself?
No. If the bug enters us, it does not enter by making contact with our eardrum. No. It enters us when we hear the word and we understand it. Understand? It is when the word is understood that the virus takes hold. And it copies itself in our understanding. Safe? No, probably not. Talking is risky. And, talk radio is high risk, so we should stop.
Voilà, ce que je trouve assez frappant dans ce film, c'est le fait de rappeler que la radio participe d'une logique de l'invasion de la contamination. Ce qu'on comprend d'ailleurs dans cette séquence, c'est que les mots seraient porteurs d'un virus qui viendrait infecter non pas ceux qui les perçoivent, mais ceux qui les entendent. Entendre ici au sens de comprendre. Cette idée de langage virus est empruntée à William Burroughs. Je pense à certains de ses textes, comme le Fastin Nu ou Nova Express, dans lesquels Burroughs définit le langage comme un système parasitaire au sein duquel les mots sont considérés comme des agents de contagion. Donc à ces conditions, la radio devient, on le voit bien dans Pontypool, l'instrument d'une propagation massive et sans limite de ce virus qu'est le langage. Le médium radiophonique présenterait la capacité de produire ce que le sociologue Hervé Glavarec nomme des effets de réel pragmatique, c'est-à-dire que non seulement grâce à la cécité de l'écoute qu'elle impose à l'auditeur, la radio instaure, je le disais, un système de croyance, mais aussi et surtout, la radio induit un passage dans le réel. Alors, l'exemple le plus frappant est sans doute le phénomène de panique, même si on doit le relativiser. Ce phénomène de panique provoqué par la diffusion en 1938 sur les ondes de La Guerre des Mondes, hein, la pièce radiophonique d'Orson Welles, qui annonçait l'arrivée des Martiens sur Terre. Mais les différentes formes d'angoisse ou de paranoïa observées chez l'auditeur de radio ne trouvent pas leurs seules explications dans le langage. Il ne faut pas oublier une dimension fondamentale de la radio, qui est celle d'être avant tout une machine électrique. Rappelons juste que la découverte de l'électricité n'a pas seulement permis d'éclairer le monde, elle a suscité aussi des craintes, des inquiétudes et des fantasmes qui n'ont, j'ai l'impression, jamais véritablement disparu de l'imaginaire qu'elle a pu susciter dans les esprits. Et on pourrait presque dire que l'électrification de nos sociétés modernes s'est accompagnée d'un ensombrissement du monde. On aurait pu penser que la rationalisation de nos modes de vie par la domestication de l'électricité aurait progressivement anéanti les croyances dans l'occulte, dans les esprits, etc. Or, j'ai l'impression que c'est là faire fi de toute une dimension métaphysique déployée par les machines électriques. Et ce n'est pas un hasard si la publication de 3 textes majeurs de la psychanalyse est contemporaine de l'apparition des premières stations de radio en Europe. Alors, je pense aux Mémoires d'un névropathe de Schreber en 1903. Je pense au texte sur l'inquiétante étrangeté de Freud en 1919. Et je pense également au texte intitulé « De la jeunesse de l'appareil à influencer » dans la schizophrénie, de Victor Tosk, également paru en 1919. Il est certain que les technologies inventées au XXe siècle pour l'usage domestique n'ont pas empêché le retour de croyances primitives ou de névroses infantiles. Je crois que le progrès technique a, au contraire, favorisé l'extension et l'accroissement de telles croyances dans d'autres champs, permettant à des phénomènes inédits de se produire et convoquant à leur tour une multitude de nouvelles pathologies. Les machines électriques suscitent une véritable terreur à l'imagination des hallucinations schizophrénique de Schreber, hein, lorsque celui-ci raconte dans ses Mémoires d'un névropathe les nombreuses descriptions où il dit que son propre corps se transforme en émetteur-récepteur radio qui capte des voix qui viennent le harceler, ou lorsque Victor Tosk parle d'une machine à influencer, certains de ses patients qui voient dans la machine électrique une machine diabolique qui vient les persécuter. L'idée étrange que des objets, donc comme les poupées ou des marionnettes de ventriloques, puissent devenir des êtres animés, et donc encouragés par la notion d'objets électriques qui parlent et semblent toujours se comporter mystérieusement. C'est là ce que Freud a appelé l'inquiétante étrangeté. Et je pense que la radio participe de ce mouvement. Elle appartient à ce mouvement d'inquiétante étrangeté, ou de ce phénomène d'inquiétante étrangeté. C'est cette voix, je disais, qui surgit dans ce salon, donc dans l'espace domestique, dans l'intime. C'est cette voix venue de l'extérieur, cette voix sans visage, cette voix inconnue, qui émerge comme ça et qui, d'une certaine manière, prête au transistor, au poste de radio, un caractère organique qui, par nature, ne lui appartient pas. Donc la radio nous met en relation avec ce phénomène-là, avec cette Unheimlichkeit, l'inquiétante étrangeté, analysée donc par Freud dans ce texte de 1919. Donc on le voit bien, hein, la découverte des ondes électromagnétiques, des rayons X, et puis de manière générale, les états radiants de la matière à la fin du 19e siècle, toutes ces questions-là, toutes ces découvertes, toutes ces inventions techniques-là, ne peuvent être véritablement comprises sans la prise en compte d'un imaginaire des fluides et des appareils destinés à les capter. Alors, s'il y a bien une question qu'on doit à présent prendre en considération, c'est la suivante. Que se passe-t-il lorsqu'un médium technique cesse de fonctionner comme une médiation? Alors, je fais allusion ici au détournement opéré depuis la seconde moitié du 19e siècle, hein, de nos dispositifs médiatiques modernes, notamment par les spirites, on les a vus tout à l'heure, le télégraphe terrestre a donné lieu chez les spirites au télégraphe céleste. La télégraphie sans fil a servi pour certains de radio spirit, de moyen de communiquer avec l'au-delà. Et il y aurait, d'une certaine manière, toute une histoire à retracer de ce que Jeffrey Skons, l'historien américain Jeffrey Skons, a appelé les médias hantés. Haunted Media. C'est le titre d'un de ses ouvrages. Une histoire qui serait donc à retracer, au cours de laquelle on croiserait à la fois la photographie spirit, le télégraphe céleste, ou bien encore la télévision psychique. Alors, ces objets hybrides cristallisent ce moment si particulier où l'outil médiatique devient ce que le philosophe américain Eugene Thacker nomme un anti-média. Alors, c'est un concept que je trouve assez fécond, celui d'anti-médiation, puisque pour Thacker, il désigne ce moment où le médium technique permet à celui qui va l'utiliser d'entrer en communication avec ce qui est par définition inaccessible ou incommunicable. La machine antimédiatique permet, selon Thacker, je le cite, de tirer davantage que ce que l'on souhaitait, avec des spectres qui apparaissent dans nos photos, des morts sur nos écrans et des choses qu'on ne devrait pas voir ou entendre sur nos bandes magnétiques. Fin de citation. Donc, avec les antimédias et donc leur potentialité surnaturelle, on ne peut plus présupposer, dit Thacker, un fondement ontologique stable et commun. En fait, l'antimédiation, c'est ce moment singulier où on met en rapport des domaines ontologiques totalement opposés. On met en rapport le naturel avec le surnaturel, le normal avec le paranormal et la vie avec l'au-delà. Donc l'antimédiation serait cet instant où l'objet ou l'outil se manifeste à nous dans une présence-absence dont je parlais tout à l'heure, ce court espace de temps où il se tient là, devant moi, tout en se retirant comme ça, dans une région obscure, bizarre, inconnue. Et c'est précisément cette figure de la machine antimédiatique qui a très largement été explorée par le cinéma de genre, notamment le cinéma horrifique. Et pour le coup, je vous propose de regarder un extrait du film Poltergeist, réalisé en 1982 par Toby Hooper.